Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good.
Bonjour à tous, nous voici tous ensemble à la Maison d'Arrêt de Nîmes. Nous avons créé une émission de radio que nous avons intitulée « Prison du Sud » sur le thème du parcours. Bonne écoute à tous. J'ai 10 ans. Je joue au foot avec mes potes derrière ma maison. Je suis un gamin comme les autres, heureux de vivre avec une famille aimante. J'ai 20 ans, je suis enfermé en cellule. C'est ma première incarcération. Les erreurs de parcours se sont accumulées et m'ont mené à de mauvais choix. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Pour la seconde fois de ma vie, de mauvais choix m'ont ramené en prison. Certains diront que je n'avais pas compris la première fois. Moi, je dirais plutôt que la justice n'est pas toujours juste, même si elle m'a fait comprendre mes erreurs passées. À 40 ans, je me vois avec une situation stable, une famille, une femme, des enfants. On habiterait une belle maison en bord de mer. C'est un parcours encore réalisable avec de la bonne volonté. Avec les prisons du Sud,
vous ne reviendrez plus jamais dans le Sud.
Ma vie a changé en 1994. Lors du retour de ma famille en Turquie, ma vie de marginal a commencé là. Avant, j'étais bon enfant. Petit délit, petit vol. Première garde à vue en 1991. Vol de survêtement. Quand ma famille est retournée en Turquie, je suis resté tout seul en France. La première année a été très dure. Manque de sous. Des fois, j'avais du mal à manger. J'avais que 17 ans à l'époque. Et je m'étais juré de ne plus vivre ça. J'ai commencé à faire mon premier braquage de bureau de tabac. C'est bon, je galère plus à avoir de l'argent. Bureau de tabac, station de service. À 19-20 ans, les choses ont augmenté en m'attaquant à des affaires plus grosses. Plus d'argent, cercle vicieux de l'argent facile. Aujourd'hui, je purge une peine de 10 ans. Et je sais que tout ça est bien derrière moi. Avec cette vie de marginal, je n'ai pas vu correctement mes enfants grandir, ni mes parents vieillir. En cavale, sur plusieurs années, aujourd'hui, je me suis rendu pour pouvoir enfin avoir un avenir familial et même professionnel. C'est un souhait au plus profond de moi, enfin voir l'avenir de mes proches et de moi-même, dans d'autres circonstances qu'aujourd'hui. Partir le matin au travail en me disant que je rentrerai tranquillement le soir. Tout vient à point à qui sait attendre.
Prison du Sud,
c'est pas les vacances.
Bonjour monsieur, dans quel domaine voulez-vous travailler?
Bonjour, mon rêve le plus cher serait de devenir vendeur de cigales à la sauvette.
Oula, vous avez de grandes ambitions. Pour commencer, il vous faudra vendre des sauterelles.
J'ai déjà mon CAP criquet.
Ah, intéressant. Vous savez qu'il faut être agile pour cela?
Oui, bien sûr, j'ai beaucoup fait d'escalade, de la gymnastique et j'ai de la technique.
J'ai eu beaucoup de candidatures. Pourquoi je vous prendrais, vous?
Parce que je fais ça depuis tout petit. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas.
Question bonus. Est-ce que vous savez imiter le son des cigales? C'est bon, vous êtes embauché.
Tous les chemins mènent à Rome.
Mon parcours est trop court, je rêve de courir avant de mourir. Le décompte a déjà commencé, le temps m'est compté. Porte close dans mon pénitencier, solitaire, les pieds sur terre, dans ma bulle ou ma cellule. International dans mon passé, a du mal à y penser. L'animal en a marre de sa cage dorée, dorée, prison du Sud.
Erreur de parcours.
Le jour où tout a basculé, il venait d'avoir 20 ans. Il était tout juste marié, rêvait d'avoir des enfants. Issu d'une famille modèle, son avenir était tracé. Une seconde d'inattention et elle a fini écrasée. Tout le monde l'appelait gueule d'ange, personne ne savait son prénom. Un stop grillé, c'est le bordel et elle a fini en prison. Il se dit derrière cette grille que la vie ne tient qu'à un fil. Tous les soirs, il pleure cette fille qu'il a écrasée en ville. Voilà un parcours gâché, la juge ne l'a pas lâché. Maintenant, c'est prêteur cachot et il a fini cachetonné. 7 ans plus tard, c'est la sortie et il doit tout recommencer. 16 années passées dans l'oubli, c'est pas facile d'avoir. On vit dans un monde où la monnaie nous pousse à voler pour nous saouler. Vie carcérale dans le passé, seras-tu là pour me relever? C'est pour les prisons du Sud, la misère on y fait face. On m'appelle Capo des Capi, tout passe mais rien ne s'efface. Tout passe mais rien ne s'efface.
Alors bonjour monsieur Ricard Jean-Pierre, pouvez-vous me dire votre parcours professionnel?
À 21 ans, j'ai passé le concours de surveillant, puis j'ai passé un concours, je suis devenu premier surveillant. Ensuite, je me suis trouvé formateur à l'École nationale d'administration pénitentiaire. J'ai passé le concours de directeur parce que quand vous êtes dans une école qui prend de plus en plus d'importance, eh bien vous formez au contact à la fois des élèves que vous rencontrez, mais aussi bien sûr des universitaires qui commençaient à pénétrer la formation des personnels. Après, j'ai dirigé la brigade de sécurité pénitentiaire lorsque j'ai passé le concours de directeur. La maison centrale de Saint-Maur, où je suis resté 5 ans, c'est les très longues peines. Ensuite, j'ai été directeur du centre pénitentiaire de Draguignan. Après, j'ai été adjoint au directeur, à une directrice, la première femme directrice régionale à Marseille. Et puis, je suis parti en Martinique. Ensuite, je suis parti 3 ans à l'île de la Réunion. Et je suis revenu à l'administration centrale dans le cadre du chef de bureau pour recruter le personnel, la formation. La formation étant une passion. Et puis en 2008, je suis parti 3 ans en Algérie pour piloter une réforme pénitentiaire avec une équipe de 20 personnes.
Je voulais savoir quelles étaient vos ambitions quand vous êtes devenu directeur.
Je dirais que mon ambition, je la résumerai en 3 mots, dignité, humanité et sécurité, parce que c'est un métier aussi où il faut penser à la sécurité.
À quoi ressemblait une prison au début de votre carrière?
Nous sommes en mai 68 quand je débute. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019. Si je prends le point A et le point B et que je les rassemble, je dis qu'il y a révolution en ce qui concerne le système pénitentiaire. Et avant, j'appelle ça la fin du Moyen-Âge pénitentiaire. Imaginez un établissement pénitentiaire, 1 heure de promenade par jour. Il n'y avait qu'un seul livre autorisé au mitard, c'était la Bible. La religion, il n'y en avait qu'une. Pas de journaux, pas de radio, pas de télévision, pas de sport. Il n'y avait pas d'argent, donc l'alimentation... C'était une horreur. Hein. Il n'y avait pas de service médical. C'était une organisation vide de sens.
Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre la population carcérale dans le temps où vous étiez en activité et la population carcérale actuellement?
C'est la criminologie qui évolue, c'est-à-dire ce sont les comportements à l'extérieur qui évoluent. La prison, elle reçoit. La prison n'est que le miroir de la société.
Pensez-vous sincèrement que l'enfermement soit utile à la réhabilitation des personnes?
C'est pas l'enfermement qui... est utile à la réhabilitation. L'enfermement est utile à la mise à l'écart et à l'arrêt des actions criminelles ou des actions de délinquance. Donc votre question, ça pourrait être, est-ce que vous croyez à la réinsertion? Alors la réinsertion, ce n'est pas une croyance, c'est des moyens et des actions. Les moyens, ce sont ceux que donne la société. Globalement, la société a accepté qu'il y ait des prisons où il y a toutes les activités, tous les terrains de sport que vous voulez, tout, même si ce n'est jamais assez pour les détenus. Les moyens... l'administration vous les propose. Et ensuite, la seule véritable réinsertion, c'est celui qui s'en empare, c'est-à-dire vous. Vous.
Je souhaite partager avec vous comment rester positif et tenir le coup par rapport à mon parcours d'incarcération. Premièrement, ma mère m'a toujours dit de ne pas m'apitoyer sur mon sort, même si c'est dur d'être enfermé 22 heures sur 24. Heureusement qu'il y a les activités grâce au SPIP. Le SPIP, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Il y a toujours plus bas que nous, et tant qu'il y a de la vie, de la santé, il y a de l'espoir. Ne jamais baisser les bras et se battre contre son mal-être. On parle de surpopulation, allez voir au Maroc les prisons où ils sont plus de 30 par cellule, sans douche et sans télé. Pensez aux gens qui n'ont pas à manger, ceux qui vivent dans la rue et ceux qui n'ont pas où dormir. Pensez aux handicapés que la vie n'a pas épargnés. Et pour ma part, les lois françaises et peines de prison sont bien appropriées comparées à d'autres pays où la peine de mort est encore employée et où l'on prend perpétuité au bout de 3 délits. Je trouve qu'on n'est pas les plus à plaindre. La démocratie française a encore des valeurs comparées à d'autres pays. Voilà tous les arguments qui m'ont aidé à garder le courage et ne pas dramatiser. Pour finir, c'est avec les conseils qu'on apprend et c'est avec les erreurs qu'on se reprend.
Les défaites de la vie mènent à de grandes victoires.
Je me prénomme Rabi, j'ai 40 ans, je suis né à Alger. Un jour très ensoleillé du mois de janvier. Octobre 1980, mon défunt père, qui travaillait à Paris sur les chantiers, a pris l'initiative de nous amener avec lui, ma mère, mon petit frère et moi, pour vivre en France. Nouvel horizon, nouvelle destinée, la ville de Drancy, en Seine-Saint-Denis, aller nous accueillir. Ma première année scolaire, à l'école Omnimus de Saint-Ouen. Un monde plein de couleurs, de toutes les origines, où j'ai côtoyé des enfants de mon âge. Nous partagions tous nos goûters si différents. C'était l'âge de l'insouciance. Tout était beau et merveilleux. Je me rappelle encore des noms de chacun de mes professeurs. Je suis arrivé au collège Clotaire Beaujoin de Bobigny, où j'ai passé 4 années. Pour au final y décrocher mon brevet. Ma première satisfaction dans le monde scolaire. L'étape suivante, c'est le lycée Jean Calvin à Aulnay-sous-Bois. Vraiment un autre monde, plus de liberté. Chacun de nous essaie de créer son identité. Premier flirt, première sortie et surtout beaucoup plus de travail. C'était l'époque du téléphone portable. J'ai passé 3 excellentes années et j'ai obtenu mon baccalauréat en 1997 et mon permis de conduire le même mois. C'était le début du véritable envol. Ma famille était fière de moi. J'étais le premier de ma fratrie à avoir eu le bac. Arrive enfin l'âge de ma majorité, où je me suis laissé tomber et entraîner dans des délits pour lesquels on m'a emprisonné et condamné. J'ai semé le vent, j'ai récolté la tempête. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je vivais là une véritable tragédie de ma vie. Enfermé dans une pièce de 8 mètres carrés, j'allais y passer quelques années. Il m'a fallu de la patience pour traverser cette expérience et le soutien sans faille de tous mes proches.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Mehdi. Pouvez-vous vous présenter ?
Oui. Alors, je m'appelle Nourdine Barra, j'habite Montpellier, j'ai 43 ans. J'habite un quartier de Montpellier qui s'appelle La Paillade. J'y suis né et j'y habite encore. J'y organise des rencontres qui ont lieu sur l'espace public, des débats, des agora, et j'écris aussi. J'écris des textes qui parfois deviennent du théâtre, quoi, qui sont portés au théâtre. Et c'est un extrait de ma dernière pièce que je vais vous dire. Là. J'écris aussi parfois je suis correspondant pour le Midi Libre. Il m'arrive très souvent d'écrire des articles sur La Paillade, que j'envoie au Midi Libre et qui paraît dans le quotidien. Alors c'est donc un extrait de ma dernière pièce qui s'appelle « Tous ceux qui errent ». Ma mère m'a rejoint en France 5 ans après mon départ d'Alger. En fait, aussitôt que j'ai pu la faire venir. Aujourd'hui encore, je la regarde comme en Algérie. Non. En France plus encore qu'en Algérie. En la trouvant si différente. Trop distinctement à part. De plus en plus ici, en France, dangereusement autre. Très jeune déjà, je m'inquiétais comme ça pour elle. J'ai ce truc ici en France d'aussitôt m'immobiliser, de ne pas trop vite la rejoindre, alors qu'elle est toute proche, alors qu'on est ensemble, pour mieux observer, mieux autoriser. Ces moments qui vont la conduire à parler peut-être à quelqu'un, à une inconnue qui l'approche. Là. Alors cet extrait s'appelle La mère. Voilà.
Avec un E à la fin ?
Oui. Avec un E, oui, la maman.
Monsieur Nordine, votre parcours scolaire, que pouvez-vous nous en dire ?
Alors c'était un parcours très chaotique. J'ai redoublé deux fois avant le bac, que j'ai raté et que j'ai passé en candidat libre. Je n'étais pas un super élève, j'essayais de m'accrocher un peu. C'était une époque où les profs vous poussaient un peu au cul, quoi, et vous laissaient pas vous endormir, et on fait en sorte qu'on en sache un minimum, quoi. Et parfois même qu'on aille jusqu'au bac, même si ça a été difficile pour moi, et finir par l'avoir, voilà. J'ai essayé la fac un peu, mais à mon époque, l'armée était obligatoire, donc j'y allais surtout, moi, pour pas faire l'armée. Exilé politique, quoi, en asile politique, ou quelque chose comme ça, voilà.
On vous a entendu parler de vos rencontres à la boulangerie de La Paillade. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors ces rencontres, elles sont dans la boulangerie. Et c'est la boulangerie qui, normalement, dont on occupe la terrasse quand j'organise des agoras. Et un jour, le patron m'a dit « Mais entre, fais aussi des trucs dedans, quoi. » Je ne savais pas quel format faire à l'intérieur. Moi, mon truc, c'est l'extérieur. J'aime que des gens passent, écoutent... La gitane en peignoir qui traverse la place, qui prend le micro et qui démonte tout le monde et qui sait même pas de quoi on parlait, quoi. J'aimais beaucoup ces trucs, quoi. Mettre à l'épreuve de la vie nos tentatives de discuter, quoi. Mais j'ai eu cette idée que des habitants du quartier du centre allaient venir nous parler d'un livre. Et chacun à peu près 5 minutes pour nous dire pourquoi ce livre est important, quoi. Et même moi, j'ai été surpris. Hein. Même moi, j'ai des préjugés, quoi. Je ne me rendais pas compte. Il y avait tous ceux qui venaient du centre, avaient des livres, des beaux livres et tout. Et puis, j'ai vu des copains venir défendre des livres. Mon pote avec qui j'ai grandi, qui vient parler d'Oscar Wilde, un livre qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray. Je ne savais pas qu'il lisait ça, moi. Jalal, avec qui on milite un peu, qui était venu avec le livre Indignez-vous. Il explique que c'est ce livre qui lui a donné envie de s'engager. Et je vois tous ses copains, une fille du quartier, Zaour, qui est venue avec le petit prince. Et là, par exemple, la prochaine, c'est rigolo, parce que je croise un type, là, un ami à moi, Ali, et il me dit, je lui dis, mais viens, présente un livre et tout. Il m'a dit, j'ai pas de livre, puis je lis pas et tout, quoi. Et en fait, il est moniteur à auto-école, et au bout d'un moment, on en arrive, et il va venir parler du code de la route, quoi. Et en fait, ce qu'il a à dire sur le code de la route, c'est sur ce que ça devient, quoi. Le permis, il y a eu un accident mortel à La Paillade encore récemment. Et tout le monde a un livre, quoi. Tout le monde a un livre à défendre.
Salut Flo, ça va ?
Bof, pas très bien.
Ah bon ? Qu'est-ce que tu as ?
Ben, j'ai pris une longue peine. J'en suis malade.
T'inquiète, j'ai la solution.
Ah ouais ? C'est quoi ?
Le cachet Caprelax. Tu prends ça et tu te réveilles le jour de la relâche.
Ah ouais ? Sérieux ? Ça m'intéresse, ça.
Avec Caprolax, vos années passent,
mais sans vous.
Parcours du combattant.
Appelé en urgence à l'hôpital, 7 mois de grossesse, ce n'est pas encore le moment. J'ai prié pour que ça ne soit pas maintenant. Je traverse la ville à vive allure, sans trop y penser. Arrivé sur place, je cherche les urgences. La future maman est au service maternité. On me rassure, ça va bien se passer. Mais je ne suis pas trop emballé. Toujours inquiet, je tiens les mains de ma femme pour la rassurer. Mais en vain, encore plus angoissé. Une péridurale et d'autres injections afin de préparer l'accouchement des cris et des poussées. Le bébé est là, la taille d'une main, il a un teint violet, très léger, à 1 kg de sang. Un petit regard de la maman, privée du bonheur de l'instant, le nouveau-né, rapidement transporté pour l'oxygéner, en attente d'un petit cri pour nous dire qu'il tient à la vie. Mais c'est pas encore gagné. Direction le service néonatalité, le médecin ne se prononce que 21 jours après. La photothérapie et plein d'autres injections, nourries de quelques millilitres de lait et le double en médicaments. Au bout de 21 jours et nuits de surveillance, où j'étais à l'hôpital plus que les employés, à 2 kilos, c'est le moment de sortie et quelques années après, c'est toujours gravé sans jamais oser lui en parler pour lui dire que t'es le bébé tant désiré.
Ce sont les chemins les plus sinueux qui mènent au plus haut sommet.
J'ai traversé les années sans toujours me rendre compte que le temps passe trop vite.
J'ai traversé pas mal d'épreuves éprouvantes dans ma vie.
J'ai traversé les rivières à la nage pour ne plus me sentir en cage.
J'ai traversé le périph' pour rentrer aux Janquis.
J'ai traversé une épreuve où ma fille est née avec un bras cassé. 5 jours d'observation, analyse complète de son corps, pire qu'une garde à vue.
J'ai traversé la Méditerranée avec mon joli voilier et fait face aux nombreuses difficultés rencontrées lorsque la mer était agitée, pour au final bien arriver sur Alger.
J'ai traversé une rivière pleine de crocodiles qui se mettaient sur mon chemin et je les ai tous mordus.
J'ai traversé la promenade pour refaire demi-tour.
J'ai traversé le temps et mon plus gros regret, c'est d'avoir perdu mon temps.
Rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui sait attendre.
Ça y est, le départ est pour bientôt. J'ai enfin été sélectionné parmi des milliers de personnes. Je vais avoir une vie calme et posée. C'est le jour J. Je décolle dans 1 heure pour Titan. Le stress monte. 5, 4, 3, 2, 1... Décollage. Je suis dans la fusée. Nous sommes en novembre 2318, en route pour Titan, loin de cette terre pleine de racisme et de fascisme. Dans une semaine interstellaire, je serai arrivé. Autour de moi, c'est magnifique. Entre les astéroïdes, les étoiles et les planètes, j'en prends vraiment plein la vue. Je ne regrette pas d'être parti. Ça y est. Nous amorçons la descente. Je suis presque arrivé. J'ai l'impression de rêver. Tout est beau, les gens sont accueillants. La nuit, la forêt s'illumine. Avec des animaux hors normes que je n'ai jamais vus de ma vie. Des cascades à perte de vue. Un monde idéal auquel je ne m'attendais pas.
Du sud,
t'as cherché le soleil,
tu t'es retrouvé à l'ombre.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
On remercie Nourdine Barra, l'écrivain, et Jean-Pierre Ricard, ancien directeur des prisons,
qui ont pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à l'équipe du SPIP, Madame Robin et Monsieur Ambrosini,
ainsi qu'à l'association Wakadji, où on a quelque chose à dire.
Et aux animatrices Tatiana et Elise.
Cette émission a été réalisée par
Jeffar,
Rabi,
Erkan,
Ahmed,
Florent,
Monsef,
Mehdi,
Reda,
Benoît.
Pour clôturer cette émission,
nous espérons que vous ne serez jamais incarcérés
dans les prisons du Sud.
glace rouge.